Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du OFF.
Et bonjour, bonjour, nous voici à nouveau dans le Novotel Centre sur Avignon, en direct sur Radio Osmose. Et je tiens à vous présenter le voyage immobile de Faust, d'après l'œuvre de Johann Wolfgang von Goethe.
Bah, c'est devenu trop
c'est Goethe.
Difficile.
Non, mais tu peux dire voilà, Goethe, hein. Goethe, c'est très bien. Goethe, ça, c'était graphiquement, il fallait que j'ai beaucoup de phrases pour suivre le texte.
Oui, donc, voilà, tu l'as.
Mais d'habitude, on dit
positionné. Goethe. Comment allez-vous, Goethe?
Ça va bien.
Oui. Ouais. Alors présentez-vous, vous êtes la mise en scène, adaptation et mise en scène Gaëlle.
Oui, Gaëlle Bogossian.
Bogossian. Et avec moi...
Donc moi je suis Paulo Correa, je suis comédien sur le spectacle et j'ai fait également la vidéo de
voilà.
Tout le spectacle.
Voilà, donc je vais vous faire découvrir ce spectacle qui est absolument fascinant. Alors déjà Faust, c'est complexe, mais alors également... Il y a toute une atmosphère visuelle.
Oui, en fait,
voilà.
La compagnie travaille déjà depuis une quinzaine d'années à faire un mélange en fait entre la vidéoprojection,
oui.
Qui serait plus une vidéoprojection, on va dire mappée sur scénographie.
Oui, j'ai
et
vu
donc,
ça.
Et donc, du coup, on essaye d'envelopper les spectateurs dans un univers toujours très particulier. Là, il s'avérait que Goethe, donc l'auteur, avait longtemps hésité entre une carrière d'auteur, d'écrivain ou de dessinateur. Il dessinait beaucoup.
Et, oui.
Et Gaël, dans son adaptation et dans sa dramaturgie, a eu l'idée en fait de me commander une vidéo qui enfin des vidéos qui soient très graphiques.
Oui.
On est parti du côté de Léonard de Vinci.
Dessiné,
oui,
voilà.
C'est
j'ai
comme
vu
si
ça.
Des
oui,
choses
oui,
se
oui.
dessinaient au fur et à mesure de
très
la
beau.
Pièce, ouais.
Oui. Et en même temps, il y a une interaction, il m'a semblé hein, parce que je n'ai pas encore vu la pièce, je vous l'avoue, mais c'est à 10h15, soyez réveillés à 10h15, rendez-vous demain à 10h15 au 11 Guilmaëch Belleville, c'est un nouveau théâtre, enfin nouveau depuis 2-3 ans je pense.
Ouais,
c'est anciennement la cafétéria, Flunch.
Tout à fait, boulevard Raspail.
Oui, je me rappelle.
Un magnifique théâtre avec voilà. Une très très belle programmation vraiment avec deux co-directeurs qui sont suffisamment assez fous pour inviter des gens comme nous
oui.
À venir travailler dans leur théâtre.
Mais c'est génial.
Parce qu'on a un très très gros décor et parce que c'est le socle même le réceptacle en fait de la vidéoprojection et il fallait avoir quand même une sacrée dose de folie pour se dire que oui, on peut faire rentrer ça dans un théâtre, surtout dans le off où souvent on se
limite à
ça a été
oui.
Toujours chose. La condition sine qua non depuis 2014 avec L'Homme qui rit où on avait joué au Chêne Noir.
Oui.
C'était de ne pas faire d'entorse en fait à nos rêves de projet.
D'accord.
C'est-à-dire que nos projets sont constitués de certains éléments
oui.
Et ces certains éléments-là doivent être présents pour le public parce qu'il n'y a pas de raison que le public d'Avignon ait un spectacle au rabais.
Oui.
Et surtout, tout fait sens. On ne peut rien éliminer là-dedans. Tout est connecté, en fait.
Tant mieux,
tout
voilà,
se fait écho. Donc, ce serait un spectacle boiteux que de n'amener qu'une
que
partie.
Que de supprimer voilà. Certaines choses voilà. Par rapport aux moyens financiers,
voilà.
Etc.
Donc, ça faisait deux ans qu'on cherchait une salle
qui s'adapte.
Puisse accueillir ce challenge-là.
Exactement.
Et donc, Fida et Laurent nous ont accueillis avec tous les moyens possibles pour que cette aventure-là se fasse. Et rencontre son public, et ce qui est d'ailleurs le cas. Hein,
oui.
C'est vraiment une belle rencontre entre le public et le spectacle, qui effectivement est un peu à part
oui.
Dans ce festival, puisque voilà, on a un énorme décor, on a deux vidéoprojecteurs, on a du son, on a un musicien
je vais adorer,
en
je
live.
Adorer. Alors justement, il y a beaucoup de... Enfin, je veux dire que pour moi, c'est presque un nouveau théâtre, bon, qui s'est mis en place depuis plusieurs années, mais où justement, on mélange les médias. Moi-même en tant qu'infographiste, bon voilà, je vous comprends tout à fait parce que des vidéos projections et tout. Et il m'a semblé donc dans votre teaser où on voit une interaction en plus avec l'image et tout. Voilà, j'adore.
Alors non,
j'adore.
On travaille avec un gros serveur qui s'appelle le serveur Pandora. C'est,
oui.
C'est une façon d'envoyer de la vidéoprojection. C'est-à-dire que nous, en tant que comédiens sur le plateau, on n'est pas timé. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut.
Bien.
Bon, on ne fait pas ce qu'on veut.
Oui.
C'est quand même,
dans les contraintes.
Il
n'y
a
voilà,
pas d'improvisation à proprement parler. Mais en fait, on peut avoir le rythme qu'on veut. Et c'est à la régie en fait, qu'on nous suit par rapport aux vidéoprojections.
La
c'est-à-dire
technique
que,
est au service de la narration.
Ouais.
Génial.
Ça, c'est très, c'était important pour nous parce qu'en fait, un comédien, quand on commence à travailler, de toute façon, ce qui prime, c'est d'abord le comédien sur un plateau. Gaël et moi, on a une formation de l'acteur plutôt assez classique, même si on est très cinéphile et même si on aime beaucoup le cinéma et si on s'intéresse énormément aux nouvelles technologies. Mais au départ, on est aussi des comédiens, comédiennes. Et donc, du coup, ce qui était très, très important, c'est que le comédien ne soit pas entravé dans l'exercice de son art. Mm-hmm. C'est-à-dire que, pour en avoir fait beaucoup, moi, quand on te dit, voilà, la vidéo, elle dure 2 minutes et il faut que tu t'insères à l'intérieur absolument, c'est toujours un peu embêtant. Alors que là, non. Ça nous permet, en fait, il y a quelqu'un qui est en régie, qui respire en même temps que les comédiens. Et donc, ça nous fait un autre partenaire encore, supplémentaire, qui est, là, pour le coup, c'est Gaëlle qui envoie les tops. Et elle respire avec nous et elle nous suit, en fait.
Alors, ça me fait beaucoup penser, excusez-moi si ce n'est pas tout à fait juste, mais ça me fait beaucoup penser à comme un DJ, quoi. Voilà, il y a un mix entre cette présence sur scène, cette ambiance sonore, cette ambiance visuelle. Tout le monde ici est acteur.
Nous,
toute la troupe,
voilà. C'est clair, là, tout le monde est...
En fait, on est une vraie troupe à l'ancienne. C'est très étrange parce qu'on utilise des moyens très modernes.
Voilà.
Mais on est une troupe à l'ancienne. C'est-à-dire que pour nous, quand on accueille quelqu'un, quand on est en partenariat, que ce soit en création lumière, en régie, en construction plateau, etc., c'est toujours du partenariat. Chacun fait partie du spectacle, chacun peut revendiquer le spectacle. Et Samuel Dumas, qui est à la régie aussi et qui a fait la création lumière et la lumière et au son. Et c'est vrai que toutes les deux en régie, on respire. En fait, on est avec eux sur le plateau. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scission, par exemple, entre la technique et l'artistique. C'est-à-dire que non, il n'y a rien de ça. C'est-à-dire que les comédiens montent le décor avec les techniciens.
Absolument.
Les techniciens jouent avec les comédiens en plateau, il y a vraiment, je veux dire en termes de régie, en fait, de respire.
Ça corde.
Donc pour nous, il y a aucune différence. On est juste, en fait, on a un seul objectif, c'est un spectacle qui rencontre un public.
Oui, voilà. C'est la mixité des arts, quoi. Voilà, je pense que le nouveau théâtre à venir se tend vers ce genre de complexité.
Je sais pas, mais je pense que le théâtre avant a été fait de multiples choses.
C'est vrai.
En fait, je crois que c'est parce
qu'il y a eu une
scission après où on s'est dit, tiens, le théâtre c'est ça et c'est pas autre chose. Moi, je pars du principe qu'en fait, du théâtre, il y en a autant que de gens qui l'exercent. Il rencontre le public qu'il doit rencontrer. Il y a des gens qui vont être plus intéressés par des choses qui sont de l'ordre du one man ou des trucs humoristiques, des choses plus classiques. Je pense que c'est vraiment en fonction des sensibilités des individus. Mais c'est faux de dire qu'il y a un théâtre ou que le théâtre, comme ci ou comme
mais
ça.
Mais après, il y a des tendances.
Oui, bien sûr. Il y a des gens.
Après, c'est vrai que nous, ça fait 15 ans qu'on se bat pour cette vidéo.
Non, mais voilà.
C'est vrai. Au départ, il y a 15 ans, quand on a commencé à utiliser de la vidéo, c'est-à-dire que pas le public. Hein. Le public nous a suivis tout de suite.
Oui,
hein.
Oui.
Mais
oui.
Certaines personnes de certaines institutions ont crié
c'est
au scandale.
Rouillé,
il y avait trop de vidéos.
On
ne
sait pas où
vous
mettre et on ne sait pas où vous caser. Mais un artiste n'est pas casable.
Exactement.
Un artiste, il explore des pistes de narration, des pistes de transmission d'œuvres.
Oui.
C'est son rôle, c'est sa mission. Alors maintenant, on essaye de nous mettre dans des cases. Alors ça, c'est... Ah oui, mais vous utilisez de la vidéo, mais ce n'est pas de la performance. Alors on ne peut pas vous mettre dans un multimédia.
Oui.
Oui, mais on ne peut pas vous mettre non plus dans le théâtre parce que vous utilisez de la vidéo.
Oui.
Et tout d'un coup, tout ça devient absurde, ça devient kafkaïen, en fait.
Oui.
Complètement absurde. C'est vrai qu'au départ, le théâtre, c'était tous les arts mélangés. C'est-à-dire on utilisait de la musique, de la danse, de l'acrobatie, du texte, du mime, tout ce qu'on voulait.
Après,
en fait, c'est comme une histoire de tour de Babel, en fait. Mm-hmm. Tout le monde a commencé à avoir son langage, alors qu'au départ, il y avait un langage qui nous unissait tous. Et j'estime, moi, que le théâtre, c'est un langage qui nous unit tous. C'est-à-dire qu'effectivement, là, nous, on a la chance d'avoir un public qui est très mélangé. On a des très jeunes comme des beaucoup plus âgés. Mais pourquoi ? Parce que les très jeunes se reconnaissent dans l'image. Les plus âgés sont surpris par cette utilisation-là. Ils sont cueillis par l'utilisation des techniques. Et puis, il y a des gens qui sont, on va dire, plus classiques et qui entendent
le
texte et qui voient de très, très beaux comédiens, des comédiens intenses, mais vraiment, puisque c'est au centre vraiment de la création.
Oui, super.
Je le pense, c'est cool. Je le pense. J'aime mes équipes. Voilà, je ne travaillerai pas avec des gens que je n'admire pas et que je ne respecte pas.
Oui, bien sûr.
Mais du coup, finalement, pourquoi vouloir cloisonner tout ça ? Alors que finalement, la seule raison pour laquelle on est là, c'est pour soutenir en fait un propos. Et ce propos-là, il est né après les événements de Charlie Hebdo.
Oui.
Où moi, je cherchais des textes. J'étais tétanisée vraiment, vraiment humainement tétanisée. Et je ne savais plus, en fait, j'ai cru que je n'avais plus envie de créer. Je ne trouvais pas de texte qui était à la hauteur, je pense, de l'état dans lequel j'étais. Je n'avais pas envie de sortir, je n'avais pas envie d'en parler. Il fallait que j'exorcise ça d'une certaine façon. Et j'avais toujours Faust qui me revenait en tête. Et pourquoi Faust ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que ça parle du libre arbitre. Je me disais, tous ces gens qui... Alors, bien sûr, c'est un événement précis, ça nous a touchés de plus près parce que c'était là, à côté.
Oui, bien sûr.
Mais bien sûr que dans le monde entier, c'est la question. C'est-à-dire que ces gens qui commettent des atrocités et qui se réfèrent à Dieu, enfin non, qui portent la responsabilité sur Dieu, le diable, je ne sais pas, un supérieur, un chef, un militaire au-dessus d'eux.
Chose mystique,
bref,
en tout cas.
On commet des choses atroces et tout d'un coup, ce n'est pas de notre faute.
Oui, bien
sûr. Parce que c'est bidule ou machin, voilà.
Okay.
Et ce qui est très beau, c'est que Méphisto dit à Faust, moi, je ne peux que te mettre dans des situations. Je n'ai aucun pouvoir sur ton libre arbitre. C'est toi qui choisis, au final. Moi, je te mets dans des situations, effectivement, qui sont compliquées.
Des épreuves.
Des épreuves. Mais au final, c'est toi qui choisis. Tu ne peux pas imposer, en fait, cette responsabilité, m'imposer cette responsabilité.
Oui, oui, oui.
Donc, j'avais envie de parler de cette chose-là, qui était pour moi importante. On est dans une époque où on se déresponsabilise totalement. Et peut-être que si on revenait à une responsabilité individuelle, peut-être que le monde serait un tout petit peu plus équilibré. Voilà, on se surveillerait un peu plus, on réfléchirait un petit peu plus et on analyserait les situations avant de se plonger dedans parce que finalement, il n'y a aucune incidence puisque de toute façon, on peut toujours reporter la faute sur quelqu'un d'autre.
Oui, c'est évidemment très facile de ce point de vue-là. Mais justement, il faut élever le problème et je pense que dans Faust, vous touchez aussi le bien, le mal, enfin cette petite Faust, voilà, ça va, c'est connu à la fois, ça va très loin dans les noms.
Alors là,
sœurs.
Il y a les deux Faust en fait.
Voilà.
Alors on connaît, je pense que les gens connaissent le premier Faust qui est l'histoire d'amour avec Marguerite que Goethe écrit quand il est jeune et donc du coup qui cherche la passion, il cherche l'amour, bien sûr, il cherche les sentiments amoureux et donc il écrit cette histoire avec Marguerite qui va aller jusqu'à une sorte de queue de poisson, puisque l'œuvre...
Le Faust 1 se termine sur une chose étrange.
On ne sait pas trop comment ça se termine. Méphisto lui dit, viens avec moi, voilà, et on ne sait pas ce qui... Et Goethe va mettre 60 ans à écrire la suite.
C'est fou, ça.
Oui, et dans le Faust 2, en fait, il y avait quelque chose qui était très, très compliqué, c'est qu'il a mélangé deux thèmes. Il a fait la suite de Faust, donc avec le même personnage, et Méphisto qui continue, entre guillemets, leurs aventures. Et il avait décidé de travailler sur le mythe d'Hélène. Gaël, en travaillant sur le Faust 2, à un moment donné, s'est dit mais c'est trop complexe en fait de faire entrer le mythe d'Hélène à l'intérieur de quelque chose qui a déjà commencé, qui est le rapprochement entre Faust et Méphisto. Et donc du coup, elle a juste dégraissé un petit peu le Faust 2, c'est-à-dire enlevé tout ce qui était de l'ordre du conte avec Hélène, avec la descente aux enfers, avec son fils qui lui
est
des
ailes. Enfin,
c'est d'une complexité terrible, terrible, terrible. Et elle en a gardé l'histoire de Méphisto et de Faust qui continue en fait. Et ce qui est assez incroyable, moi j'adore jouer la partie 2 du Faust. Dans notre spectacle, ça passe comme une lettre à la poste. Les gens ne se disent pas, ah là d'accord, on a fini le Faust 1, maintenant on attaque le Faust 2. C'est pas ça. Mais ce qui est vraiment formidable, c'est que le Faust 2, en fait, il devient beaucoup plus politique. Et il dit des choses qui sont hyper actuelles. C'est-à-dire que comme il est beaucoup plus âgé quand il l'écrit, beaucoup plus conscient aussi du monde qui l'entoure, qu'il a ingurgité en fait. Oui, puis qu'il a déjà vécu l'amour. Donc du coup, une fois qu'on a vécu l'amour et qu'on peut le toucher ou en tout cas le reconnaître, on s'intéresse peut-être à d'autres choses. Et là, il va aller jusqu'à faire, avec ce Faust, là, il va lui faire inventer en fait le papier-monnaie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a nous à l'heure actuelle, c'est-à-dire de l'argent virtuel. C'est-à-dire que plutôt que de dire voilà ce qu'on a dans notre poche ou sur notre carte de crédit, c'est de l'argent. En fait, non, c'est pas de l'argent, c'est virtuel tout ça. Et donc, et on est à l'orée de la guerre et on est à l'orée de bouleversements assez incroyables.
C'est un système qu'on va retrouver tout au long de
l'histoire. Retrouve
en fait,
à chaque fois qu'il y a des grandes guerres.
Surconsommation, crise,
crédit limité, c'est-à-dire qu'on dit aux gens il faut consommer absolument.
Et ceci étant dit, on y est encore.
Sans
parler de la guerre, c'est pas une
c'est
guerre
incroyable.
Déclarée. Mais on a un gros problème avec l'argent virtuel.
Voilà.
Nous, on s'amuse à jouer avec les codes, c'est-à-dire qu'on sait que les gens connaissent l'histoire et tout ça, et on essaye de mettre énormément de petits clins d'œil, en fait. Alors d'abord au cinéma, parce que c'est quelque chose qui nous touche très très fort. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les images d'archives aussi, c'est-à-dire faire un lien entre le aujourd'hui et avec des images qui datent d'hier. Parce qu'en fait, ou des recherches, bien sûr, et puis des recherches sur Internet, puis des choses que je trafique graphique moi-même, oui. C'est-à-dire que j'aime bien mettre à l'intérieur d'images d'archives des choses qui sont contemporaines et tout ça, parce que je fais des effets spéciaux et des images, ça m'amuse beaucoup, oui, beaucoup, ouais. Un grand fan d'After Effects.
Merci.
Et donc du coup, toutes ces images d'archives, en fait, ça nous permet de parler d'aujourd'hui, mais sans être le nez complètement collé à l'actualité, parce que on bien sûr qu'on pourrait parler du gouvernement qu'on a là ou qu'on a eu juste avant, ou de ces gens qui ne prennent pas les bonnes décisions, enfin qu'on pense être des bonnes décisions, mais qui où on voit qu'on va où ça va de plus en plus mal. Je veux dire, à un moment donné, dans le Faust 2, Mephisto dit à Goethe, regarde, on ne peut plus se fier à aucun parti. Chaque jour, le mot d'ordre est à l'économie et chaque jour, la dépense grandit, ce qui, à mon avis, est un peu le cas à l'heure actuelle. C'est-à-dire on nous dit à nous tous de nous serrer la ceinture et puis tout d'un coup, on apprend des choses.
Vive le 80 km à l'heure.
Ouais, puis on parle un peu de foot et puis comme ça, on oublie plein de trucs.
Oh
mais en fait, je trouve que ce qu'il y a de génial vraiment dans ces grands auteurs, et c'est pour ça qu'on travaille sur des auteurs classiques, ce qui est vraiment de génial, c'est que en fait on peut les redécouvrir et mettre les choses un petit peu à distance.
C'est un filtre qui nous permet au mieux d'analyser la situation actuelle. Je trouve que quand on a un matériau qui est actuel pour analyser une situation actuelle, on a du mal,
c'est
trop d'informations,
y a pas de recul.
Oui. Alors que finalement ça crée un filtre qui nous permet de prendre du recul un peu et de se dire, ah, 19e siècle, 21e siècle, c'est étrange parce que les schémas se ressemblent et en fait, c'est une boucle en permanence. Alors, technologiquement, on évolue beaucoup, mais humainement et humanistement, je ne suis pas sûre que l'évolution se fasse réellement. Puisque finalement, dans tous les systèmes qu'on met en place, l'humain n'est pas au centre de ces systèmes-là.
L'humain et la nature.
Et la nature, oui.
On s'en décolle, mais de plus en plus. Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'au travers le Festival d'Avignon, on souligne et on relève des idées qui sont authentiques et phénoménales, mais justement, qui se réfèrent au siècle passé, d'il n'y a pas si longtemps ou plus longtemps, mais qui font vraiment écho avec notre société actuelle. Et j'adore ces flashbacks.
Moi, je suis persuadé qu'on n'invente rien.
Oui.
On redécouvre sans arrêt des choses qui sont déjà produites. Après, normalement, avec l'histoire, on devrait tirer des leçons, ou en tout cas des... Je pense. Après, on n'est pas tous non plus, on ne se lève pas tous de bonne humeur tous les matins non plus.
Non, enfin, je suis
d'accord. On n'est pas tous, c'est pas non plus, enfin, tout n'est pas noir non plus, hein, ça va aussi. Enfin,
mais...
c'est un spectacle où on s'amuse hein, quand même. Hein.
Moi,
c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur l'œuvre entière. Bon, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment l'œuvre d'une vie entière.
Oui.
C'est-à-dire que Goethe écrit jeune sur l'émotion.
C'est fou.
Et il le dit, hein, c'est l'œuvre d'un être tourmenté. Hein. Et plus tard, il va se porter sur la société. Mais ce qui est très beau, ce que j'ai découvert, moi, en travaillant sur ce texte-là, j'ai travaillé sur 9 traductions différentes.
Bien.
Pour justement essayer de toucher au plus près l'esprit de Goethe. Ça a été très, très long, évidemment. Hein, mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est que c'est très drôle. C'est drôle. Alors, on ne rit pas à gorge déployée. C'est de l'humour fin, en fait. C'est de l'humour intelligent. C'est de l'humour incisif. Et c'est ce mélange que j'aime en fait dans nos spectacles en règle générale, c'est-à-dire que ça peut être, encore une fois, on ne cloisonne pas, ça peut être à la fois drôle et émouvant et technologique et il peut y avoir de l'humain
historique
beaucoup à l'intérieur. Et encore une fois, c'est la complémentarité des domaines qui permettent tout d'un coup de livrer un univers plein aux spectateurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit quand on rencontre des gens dans la rue et qu'on les engage. Parce que moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir, alors que je suis assez sauvage et que j'ai un peu du mal en fait, à aller vers les gens comme ça, à les déranger. J'ai l'impression de les déranger dans la rue. Mais en fait, finalement, ce que j'ai découvert là, avec ce que j'ai engagé auprès des gens dans la rue, c'est que finalement, je leur parle. Et je leur parle du spectacle. Et c'est un bonheur parce que bon, je ne suis pas très, très rapide hein, dans tout ça, du coup. Mais en fait, j'ai des débats. J'ai des débats avec des gens.
Oui.
On discute des politique,
échanges.
On discute philosophie, on
tout
discute art, en règle générale.
Bien sûr.
Et ce qui est très beau, c'est de pouvoir livrer, effectivement, quelque chose de total. Et ce que je leur dis, c'est que ça s'appelle le voyage immobile et que ça porte bien son nom. Parce qu'effectivement, c'est un vrai voyage très immersif. Oui. Alors, il y a la vidéo qui est très, très, très belle. Donc, nous, on travaille aussi dans des domaines de mapping sur façade. Oui. On a amené la façade à l'intérieur. Hein. C'est en ça que le 11 Gilgamesh Belleville a été assez exceptionnel de nous accueillir.
Oui.
Il y a cette chose immersive en 3D de l'image, mais il y a aussi le son. Oui. Il y a un musicien-chanteur qui compose qui chante un opéra rock en direct avec un système de boucles, c'est-à-dire qu'il enregistre des sons et il les additionne, voilà, le système de boucles.
Return, je sais pas quoi.
Et au bout d'un moment, en fait, tout ça compose une sorte de symphonie absolument magnifique. C'est un chanteur avec une base lyrique aussi, mais une base rock aussi par la suite. Donc tout est pareil, rien n'est cloisonné dans cet endroit-là. Il y a des chants, on va dire presque
en latin,
presque religieux. Ouais, il y a des choses très très rock, et tout ça se mélange encore une fois pour raconter une histoire.
Très bien. Alors vous faites partie d'un collectif 8, c'est
oui,
ça ?
Oui, on est le collectif 8, ouais.
Voilà. Non, on est un peu
théâtre et art numérique.
Moins nombreux que 8.
Oui.
Oui. Voilà.
Ouais, on mélange les deux. C'est ça. Ça fait 15 ans qu'on cherche. On continue à chercher, on ne trouvera jamais, je pense.
J'adore ce terme, chercheur d'art.
En fait, nous, on a une énorme admiration pour Méliès.
Oui.
C'est-à-dire qu'on fait un peu la même chose.
Mm-hmm. Oui, on bidouille.
On essaye.
Méliès avec sa lune et le truc dans l'œil.
On
essaye des choses.
Et je fais bien la lune.
Et finalement, encore une fois, on ne cherche pas un résultat qui va nous permettre de sortir du lot ou d'être reconnu à un endroit, mais on cherche à,
une qualité.
Encore une fois, à stimuler le spectateur sur des choses qui nous touchent aussi et qui deviennent du coup poétiques. Et du coup, cette recherche-là, en fait, qui n'est pas dans un but, on va dire, entre guillemets, commercial, mais qui est dans un but réellement de recherche, mais encore une fois, pas de recherche élitiste. Pour moi, nos spectacles sont des spectacles populaires dans le sens où ils s'adressent au public.
À tout
âge. Et populaire n'est pas un vilain mot. Hein.
Oui.
Populaire, ça veut dire que de s'adresser au plus grand nombre, mais de leur apporter quelque chose qui est beau, qui est fort, qui est réfléchi. Voilà. Et pour moi, c'est quand même l'essence même du Festival d'Avignon. C'est-à-dire que c'est l'esprit même de cet endroit-là. Bon, après, c'est devenu d'autres choses.
Bien sûr.
Entre-temps. Mais en tout cas, moi, je porte fièrement cet étendard-là. Et franchement, je n'ai aucun souci à le porter.
Oui.
L'élitisme, c'est très bien. Hein, il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y ait toutes sortes d'art. Mais voilà, moi, c'est pas celui qui va m'intéresser.
Alors, ce n'est pas une création proprement dit pour ce festival. Vous l'avez déjà joué ?
Oui. En fait, on l'a créé au théâtre d'Antibes, Antea, parce qu'ils sont nos coproducteurs et on l'a monté il y a, je crois, 3 ans. À peu près, et jusqu'à présent on n'avait jamais pu l'emmener jusqu'à Avignon. En fait, après, oui, bien sûr, il était déjà monté. C'est rare qu'on fasse des spectacles spécialement pour Avignon.
Oui.
Les spectacles sont déjà montés, on les emmène à Avignon. Ouais, ça nous est arrivé une année, il y a 2 ans, suite à une déconvenue de salle.
Bon, on devait jouer Faust.
Voilà, on devait jouer Faust et c'était, ça c'était tombé à l'eau. Et donc, du coup, on avait monté La Religieuse de Diderot. Et là, c'était une vraie création. La première était vraiment à Avignon.
C'était effrayant.
C'était très, très effrayant.
Donc voilà, vous présentez donc un spectacle qui est déjà rodé, bien orchestré.
Non.
Mais, enfin,
rodé, non, je pense pas. Non. Bah, techniquement, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on est rodé, même si c'est formidable, en fait, c'est que on est des funambules.
C'est-à-dire
qu'à chaque fois qu'on arrive et que le rideau s'ouvre ou en tout cas qu'on commence le spectacle, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc il y a pas de. Nous, on travaille énormément en amont.
Oui.
Pour que même le jour de la première, toute première, je ne dirais pas celle d'Avignon, mais avant, même la première où on a donné, on donne toujours le mieux, mais on continue à travailler. C'est-à-dire que Gaëlle continue toujours à me dire, écoute, cette vidéo-là, je trouve qu'il faudrait que tu travailles un tout petit peu plus sur ci ou sur ça. Elle n'arrive pas au bon moment, au bon endroit. Enfin, le mapping, comme on est beaucoup de compagnies qui se succèdent dans la salle, je veux dire, c'est très compliqué de garder les réglages parce qu'il y a beaucoup de passages, parce que c'est du matériel qui ne peut pas être déplacé, ne serait-ce que de 3 cm, parce que 3 cm, sur une façade qui a 10 bancs à 10 mètres, ça bouge. Donc on continue à travailler, même nous les comédiens. Rien n'est jamais calé.
Il y a des notes d'équipe.
Non, mais je veux dire, je vous donnais l'impression d'avoir.
Par contre, c'est rigoureux.
C'est très rigoureux.
Une grosse envie de que tout soit techniquement au plus parfait.
C'est un peu notre façon à nous de faire le cinéma.
Mais avec une légèreté, voilà. La légèreté du spectacle vivant
complètement. Et surtout,
c'est ça que j'aime bien.
La sueur, l'émotion, Oui. Alors, souvent, on nous a dit, mais pourquoi vous ne faites pas du cinéma? Mais parce que ça ne m'intéresse pas. Oui. Mais vraiment
a,
pas.
Il n'y a pas la scène.
Ah,
pour moi,
oui,
c'est
oui,
pas la même aventure. Là, on a une équipe, on a 10 personnes, on est 10 en tout. Tous les jours,
c'est énorme, déjà.
Je leur fais des notes. Et tous les jours, au bout de, je ne sais pas, on est à peu près à 40 représentations, quelque chose comme ça. Et tous les jours, ils m'écoutent. Et tous les jours, on change des choses, on modifie, on améliore. Pour moi, le spectacle ne se termine jamais.
Oui,
en fait.
Il est toujours en train de
se construire. Il est toujours en mouvance. En fait, je remarque des choses nouvelles tous les jours. Il y a tellement de petits détails, de petites choses à mesurer, à parfaire.
Et puis, on a un partenaire différent tous les jours, le public.
Ah oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'en fonction... Non, mais c'est vrai. Et oui. Ça, par exemple, en tant que comédien, alors peut-être un peu moins en tant que technicien. Oui. Enfin, je veux dire, la vidéo, elle sera toujours envoyée pareil, à moins qu'il y ait un problème de lampe ou de machin comme ça. La vidéo sera toujours la même. Mais par exemple, en tant que comédien, notre rythme, même si on essaye d'être rigoureux et de rester sur le bon timing, mais il varie énormément en fonction du public. C'est-à-dire
de la réaction du public.
De comment il reçoit la chose, de comment nous on pense qu'il reçoit la chose. Enfin, c'est un peu comme une. Moi, je dis toujours, c'est un peu comme une relation amoureuse. Oui. Parce qu'en fait, on va quand on va faire une représentation, d'abord on se prépare, on s'habille, on se maquille.
Ce sont les mêmes codes.
C'est les mêmes codes qu'une relation amoureuse. Et puis on veut plaire.
Oui.
Quand même.
On a la boule au ventre.
Puis on veut raconter des choses.
Et
puis
on veut
pas
être.
On veut pas passer pour des idiots. Puis on veut. Enfin voilà. Et donc c'est exactement la même chose qui se passe entre le public et le comédien qui est sur le plateau. En tout cas pour ma part. Et donc, du coup, c'est jamais pareil. Par exemple, une salle qui ne réagit pas, par exemple, à une blague ou deux, parce qu'il y en a, tu vois, il y en
ça
a une
arriver.
Ou deux, hein, pas beaucoup. Mais
ils n'ont pas beaucoup de crédit blague.
C'est pas comique du tout. Non,
c'est drôle, mais c'est pas hilarant.
C'est drôle, mais c'est la complexité aussi de rester sur le fil. Oui. C'est que ça doit être drôle, mais fin. Et dès qu'il y en a un petit peu trop, et ben on bascule de l'autre côté.
On n'a
pas
le droit de
faire ce que je veux.
On n'a pas le droit de faire du comique troupier.
En fait, on est sur le fil tous ensemble.
On n'a pas le droit d'aller chercher les rires.
C'est vrai qu'au départ, en fait, on l'a joué une quinzaine de fois parce qu'en Théa, le nouveau théâtre d'Antibes et son directeur Daniel Benoît nous coproduisent tous les ans. Et donc, on a joué une quinzaine de fois là-bas en création. Donc, ce soutien-là, il est très, très fort et très important pour nous. Et ensuite, on a dû faire quelques dates derrière. Mais c'est, finalement, ça, c'est une époque. Là, aujourd'hui, on est à Avignon. Aujourd'hui, on a telle contrainte. Aujourd'hui, on rencontre tel type de spectateurs. Tel public, aujourd'hui, demain, il sera différent. Donc, en fait, le spectacle, il évolue aussi. Alors, bien sûr que la base est très, très rigoureuse. Elle est très rigoureuse et j'y tiens, je tiens bien les rênes.
C'est la structure.
Mais évidemment, il y a des choses qui vont encore évoluer. Effectivement, je demandais encore tout à l'heure à Polo de changer un média qui ne me convenait pas parce que dans cette salle-là, il fonctionne moins bien que dans une autre.
Oui, bien sûr. Ok, ben c'est ça, ça a l'air vraiment fantastique. Au sens propre et au figuré. Donc.
Mais là, tu vas être obligé de venir.
Ah, mais clair,
non, c'est clair, sûr. Si je te vois pas demain dans la salle.
Je vais intervenir, je dis ah, ça, tu pourrais pas.
Et redire un petit mot.
Ouais.
Une prochaine fois, après l'avoir vu.
Avec grand plaisir.
Alors, donc... je l'ai vu, en fait, ils en ont bien parlé, mais alors que c'était
alors,
pourri.
Franchement, voilà. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, parce que j'ai vu aussi des extraits, donc je suis déjà envoûtée. Voilà, donc retrouver le voyage immobile mais non statique de Faust.
Tu sais pourquoi on appelle ça le voyage immobile?
Moi, pour moi, ça me parle. Hein.
Ouais. Alors, c'est uniquement parce que, en fait, dans la dramaturgie et dans notre façon de voir les choses, on utilise la vidéo de façon onirique.
Oui.
C'est-à-dire que la vidéo n'est pas là pour remplacer un décor ou pour. Enfin voilà, c'est. Et la façon
tu n'en
onirique,
pas
en
trop,
fait.
Hein,
non, pas
ah,
du tout.
Je ne dévoile pas. Un petit peu.
En fait, ça se passe. Toujours dans la tête de quelqu'un. Tous nos spectacles se passent dans la tête de quelqu'un. C'est pour ça qu'en fait, il suffit de fermer les yeux et c'est ça en fait. Ouais.
Oui, mais le voyage immobile, c'est tous les jours dans ma tête aussi. Alors maintenant que si je vois Faust, ben, ça va, vous allez nous revoir tous ensemble là. 10 comédiens sur scène, non, 10, non, c'est pas grave.
Non, bon, ils sont 3, mais ils valent bien 10, 15,
voilà,
vingtaine de comédiens.
Il faut que tu le vois, sinon c'est
clair.
C'est compliqué.
Voilà, donc le collectif 8, donc ça se passe, donc c'est Faust, je rappelle. Donc c'est dans le théâtre le 11.
Gilgamesh, Belleville.
Salle
c'est la salle 1.
Voilà.
C'est tous les jours à 10h15.
10h15, ça c'est important. C'est au réveil.
Les gens ont déjà pris leur petit-déj.
Il y a le petit-déjeuner, il y a un décollage en douceur avec Goethe, et puis après, voilà. Tout le monde est prêt pour une journée de festival.
Formidable. Je te jure que les gens, ils sortent de la salle, voilà, vraiment très contents.
Venez vous ouvrir l'esprit dans un voyage immobile avec Fast. Voilà. Et dommage, ils nous ont pas amené la musique parce que ça a l'air.
La musique est magnifique.
Ça arrache aussi.
Ouais.
Mais on peut la procurer.
Non, mais il suffit d'aller sur internet. Tu vois, tu tapes www.collectif8.com. Déjà, tu vas tomber sur le site. Il y a des teasers.
Et voilà.
Et puis, tu vas sur le Facebook. Tu tapes Facebook Collectif 8 et on répond à tout le monde.
Oui. Alors, et d'autant plus que j'ai mis le petit teaser sur ma page Parlons Festival. Donc, si vous trouvez pas toutes les connexions, vous pouvez déjà aller sur ma page et après rebondir sur les différentes connexions possibles. Voilà, en tout cas charmée et ravie de vous avoir rencontré.
De même.
Et alors je vous souhaite un très bon festival avec beaucoup de succès, donc réservé parce qu'il faut prendre rendez-vous, il y a du monde comme ça. Et surtout dès le matin, alors pour démarrer une journée
fantastique. Après un petit café, des petits croissants, c'est super, tu viens.
Merci beaucoup de nous avoir reçus en tout cas.
C'était un moment de fraîcheur avec vous. Merci, au revoir.
Cool,
au revoir.
Ciao.